c'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit « Allahu Akbar ». Après ça, ils ont dit que « Où est l'argent ?» Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, l'insécurité persiste au Mali. Quels sont les défis du nouveau président nigérian Muhammadu Buhari? La lutte contre Boko Haram est au cœur de sa première visite d'État au Niger.
Il veut rapidement finir avec Boko Haram. C'est d'abord une question sécuritaire. Les trucs économiques et autres là vont venir par la suite.
Ensuite, ce sera la rubrique santé, épidémie de rougeole au Cameroun. Et enfin, le Bénin veut promouvoir l'éducation sexuelle des jeunes filles pour favoriser leur éducation. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus. Restez avec nous. Au Mali, l'insécurité persiste au-delà des régions du nord du pays. Dans les grandes villes, les bandits, les coupeurs de route et autres délinquants empêchent la population de vaquer paisiblement à ses occupations. C'est dans ce contexte que le ministre chargé de la sécurité intérieure a été interpellé à plusieurs reprises par les députés. On fait le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Actuellement, les patrouilles des forces de sécurité sont multipliées, mais sans effet, nous dit cet habitant de Bamako.
L'insécurité bat son plein à Bamako. On se fait agresser à tout moment. Et le problème le plus saillant est que les hommes en uniforme nous attaquent, souvent attaquent beaucoup de personnes avec des armes à feu.
Certains quartiers de la capitale malienne sont infréquentables.
Des gens qui sont paisibles dans leur quartier, devant leur porte, on s'attaque à ceci, alors qu'on sait bien que dans les endroits où isolés, où les forces armées doivent intervenir, ils ne font pas là-bas. 19h à la C2000, on retire les motos des gens. Et ça se fait au vieux, au sud. Alors que les forces de sécurité tournent dans les alentours, ils ne font pas le travail comme ça se doit, sincèrement.
À côté de ce tableau sombre, certains Maliens se réjouissent des démantèlements de certains grands réseaux et des coupeurs de routes.
Il y a certains réseaux de malfrats qui ont été démantelés sur l'ensemble du territoire malien. Il faut reconnaître aussi que chaque fois qu'on met un système en place, les bandits ou les trafiquants, ils mettent en place leur contre-stratégie.
Les ministres de la sécurité intérieure parle de mobilisation autour des forces de sécurité. Général Sada Samaki.
Sans qu'il n'y ait pas une mobilisation générale autour de ceux qui ont la charge de gérer la sécurité dans notre pays, on n'arrive pas. Et la sécurité aujourd'hui n'est pas une situation qu'on peut quantifier. La sécurité aujourd'hui n'existe pas, nulle part. On se réorganise, on met du temps. Nous sommes en train de recruter 750 policiers. Nous avons estimé qu'il faut avoir des policiers dignes de ce nom.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM. Direction le Nigeria à présent, où Muhammadu Buhari a prêté serment vendredi dernier en tant que président du pays le plus peuplé du continent. Lagos, la grande métropole, est souvent plongée dans le noir par manque d'électricité. À Abuja, la capitale, comme dans plusieurs villes, il y a de longues files d'attente devant les stations à cause de la pénurie de carburant chez pourtant le premier producteur de pétrole d'Afrique. Sur les défis qui attendent le nouveau président, Idriss Fall a joint le docteur Cletus Iom, professeur à l'université de Makurdi au Nigeria.
Mohamed Buhari, le président élu, n'est pas nouveau en ce qui concerne l'administration du Nigeria. Il était une fois un chef d'État de notre pays, bien expérimenté. J'espère que lui aussi connaît bien les problèmes qu'il attend. On pense que Buhari est capable de bien faire et de bien réussir son travail de président du Nigeria.
Un des premiers plus grands défis, ce sera la sécurité, parce que Boko Haram est là.
Boko Haram est là, oui, bien sûr. Mais nous avons également une armée qui est bien expérimentée et qui a joué un bon rôle au niveau international. Notre avis, on n'a pas bien utilisé notre armée. lorsque le gouvernement a été furieux vers la fin de son régime, lorsque les élections s'approchaient, on a effectivement attaqué le province de Boko Haram. Et maintenant, on a capturé la majorité de leur base. Le problème est toujours là, mais pas aussi menaçant qu'avant.
L'autre problème, c'est la corruption. Le Nigeria est connu pour la corruption presque endémique.
Oui, oui. Cela a vraiment contribué à l'incapacité du gouvernement qui va partir. Le gouvernement a été vraiment corrompu. La corruption même est arrivée au niveau de l'armée. Donc voilà pourquoi c'était difficile pour le gouvernement de vraiment trouver solution à ce problème de Boko Haram. On espère qu'avec Buhari, ce sera différent. Parce que lui, il n'aime pas la corruption. Il a déjà manifesté cela lorsqu'il était le chef d'État de notre pays. Il a vraiment combattu contre la corruption et la discipline. Et vous vous rappelez War Against Injustice qu'il a introduit pour lutter contre ce dégât d'indiscipline-là. Nous espérons qu'il va vraiment s'attaquer à la corruption. Il a fait une grande promesse. Je pense qu'il va trouver une solution à ce problème.
Et aussi à la question du chômage, c'est le pays le plus peuplé du continent, première puissance économique, et l'ensemble, une bonne partie des jeunes n'arrivent pas à trouver du travail.
C'est une économie sur le papier. Le Nigeria a la plus grande économie en Afrique maintenant. Mais comment est-ce qu'on voit les effets de cette économie? Il n'y a pas de grands effets. Il y a le chômage, il y a beaucoup de gradués qui ne trouvent pas d'emploi. Il y a l'argent quand même, il y a l'argent. Il y a les individus qui sont même plus riches que le pays. Ils ne font rien pour améliorer la situation des paysans. La masse populaire souffre.
C'est le docteur Clétus Iom que l'on vient d'entendre, professeur à l'université de Makurdi au Nigeria. Et c'est au Niger, qui sera suivi du Tchad, que le nouveau président nigérian, Muhammadu Buhari, effectue ses premières visites d'État. Ces deux pays ont été les premiers à s'engager aux côtés de l'armée nigériane dans la lutte contre Boko Haram. Comment cette visite du président nigérian est-elle accueillie par les Nigériens? Notre correspondant Abdulrazak Idrissa a recueilli les impressions de quelques habitants de Niamey.
C'est en quelque sorte une reconnaissance de l'engagement du Niger dans la lutte contre la secte Boko Haram.
Il y a une sorte d'unanimité chez beaucoup de Nigériens sur le choix porté par le nouveau président nigérian Muhammadu Buhari d'effectuer au Niger sa première visite d'État à l'extérieur depuis son investiture. Pour eux, c'est plus que jamais le signe de la vivacité de la coopération entre les deux pays.
Moi, je crois qu'en choisissant le Niger, en réalité, Buhari revient chez lui. Parce que n'oubliez pas que nous avons plus de 1200 km de frontière avec le Nigeria. Nous avons les mêmes origines. C'est pratiquement la colonisation qui est venue tracer des frontières entre nos deux pays.
Les relations entre le Niger et le Nigeria sont, depuis la nuit des temps, très avancées, très, je dirais même que c'est des familles qui se retrouvent de part et d'autre des frontières. Donc,
au-delà de tout, certains Nigériens voient aussi dans cette visite du général Buhari au Niger comme un choix qui s'impose à lui, question sécuritaire oblige.
C'est un choix obligé pour ce nouveau président, dans la mesure où c'est un connaisseur de la sécurité en tant qu'ex-général du Nigeria. Donc il sait bien pour que son engagement puisse être porteur et efficace, il faut bien évidemment coordonner avec le pays voisin dont l'engagement a été quand même montré.
Je pense que le fait qu'il entame avant même la formation de son gouvernement, une visite ici et au Tchad, c'est pour montrer en tout cas qu'il n'a pas été insensible aux efforts que notre peuple a fournis à travers notre intervention militaire, en tout cas au Nigeria. C'est pratiquement, en tout cas, pour relancer le combat contre Boko Haram. Il veut rapidement finir avec Boko Haram. C'est d'abord une question sécuritaire. Les trucs économiques et autres là vont venir par la suite. Mais dans l'immédiat, le problème qu'il cherche à résoudre, c'est le problème de Boko Haram. Et je pense que c'est pour cela qu'il revient chez lui.
Pour la majorité des Nigériens, il va certes être question sécurité dans les échanges entre Issoufou et Buhari. Il doit aussi être évoqué la question énergétique. Le Niger dépend en effet en grande partie du Nigeria sur ce plan. Les dernières perturbations dans le secteur au Nigeria ont été lourdement ressenties ici au Niger. Il faut noter que cette visite du général Muhammadu Buhari est la raison principale du report de la marche prévue demain mardi par les organisations de la société civile nigérienne. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Sahel Plus, rubrique santé à présent. Vaste campagne de vaccination contre la rougeole au Cameroun. C'est la réponse du gouvernement face à l'épidémie qui frappe le pays et qui ne fait qu'empirer, selon des médecins. De nombreux parents, disent-ils, ne font pas le nécessaire pour faire vacciner leur enfant contre cette maladie hautement contagieuse, mais tout à fait évitable. De Yaoundé, la correspondance de Moki Edwin Kinzeka, correspondant pour La Voix de l'Amérique du service anglophone. Son reportage a été traduit et présenté ici par Jacques Aristide.
Le Cameroun déclare la guerre à la rougeole et c'est à Yaoundé, la capitale politique, que le coup d'envoi a été donné. La maladie a été détectée dans cette localité de la ville des Sept Collines. Les principales raisons de sa propagation avec la secrétaire permanente du programme élargi de vaccination, Dr Marie Kobela.
Pourquoi il y a ces épidémies? C'est parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne vaccinent pas leurs enfants. Le vaccin se fait à l'âge de 9 mois. Donc, entre le dernier vaccin qui est reçu à la 14e semaine et ce vaccin anti-rougeoleux qui est à l'âge de 9 mois, les mamans oublient les rendez-vous. Et très souvent, ne viennent pas à 9 mois pour faire ce vaccin. Et comme c'est une maladie extrêmement contagieuse, dès qu'il y a un seul cas, tous les enfants autour, s'ils sont non vaccinés, ils vont attraper la maladie.
Pour tenter de juguler l'épidémie, des équipes de surveillance ont été déployées dans les régions considérées comme les foyers de la maladie. Mais pour mener à bien cette tâche, le gouvernement a appelé à la coopération des populations en leur demandant notamment de signaler tous les cas suspects. Docteur Kobela, à nouveau.
C'est un enfant qui va faire de la fièvre, qui aura une éruption cutanée, les yeux rouges, larmoyants, le nez qui coule et la bouche aura des petites blessures. Ça, c'est la rougeole. Il faut se rendre au centre de santé le plus proche. Donc, il faut qu'on baisse la fièvre. Il faut que l'enfant continue à avoir son allaitement maternel. Si la maman espaçait déjà l'allaitement, il faut qu'elle revienne, qu'elle insiste, qu'elle lui donne ça fréquemment. Ça va protéger l'enfant et l'enfant doit être supplémenté en vitamine A.
Au cours de la présente campagne, les autorités ne manquent pas non plus de rappeler la contagiosité de la maladie. En effet, le virus se transmet très facilement d'une personne à une autre par la salive, la toux, les éternuements, mais également à travers les mains ou les objets contaminés par des sécrétions du nez ou de la gorge comme les jouets et les mouchoirs. Une personne contaminée est contagieuse sans le savoir, avant même de se sentir malade. C'est ainsi que sur le terrain, il est avant tout question d'encourager les gens à se faire vacciner s'ils ne sont pas à même de prouver qu'ils l'ont été déjà à leur jeune âge ou encore de pouvoir établir qu'ils n'ont jamais contracté la rougeole. Quant aux parents de nourrissons qui ont entre 6 et 11 mois, ils sont contraints à les faire vacciner. Ngambi Martin dirige l'une des équipes dépêchées à Yaoundé.
Dans l'aide de santé de Nkwabank, il y a cette équipe de vaccination composée d'un mobilisateur et d'un vaccinateur. Le travail du mobilisateur consiste à aller mobiliser la population pour l'adhésion totale à la vaccination.
La dernière flambée de rougeole au Cameroun remonte à février 2010 et avait duré jusqu'en juillet 2011. 37 des 179 districts du pays avaient alors été touchés.
Rubrique éducation, pour finir cette émission, au Bénin, seules 3 jeunes filles sur 40 finissent leur cycle d'études secondaires, certaines abandonnant leur cursus à cause de grossesses non désirées. D'où la nécessité d'intensifier l'éducation sexuelle des jeunes filles. De Cotonou, écoutons la correspondance de Peggy Ludovic Dagba.
J'avais une petite amie, bon, j'entendais souvent parler du sexe, donc je me suis dit, ah, pourquoi ne pas aller découvrir ce que c'était.
C'était une belle expérience.
On peut dire.
Je suis tombée enceinte à l'âge de 16 ans. Je n'ai pas pris beaucoup de conseils de mes parents sur le sexe.
Faire une relation sans le sexe, je ne pense pas que ça pourra vraiment marcher. Si on doit faire une relation sans sexe, c'est que je ne serai pas sérieux avec elle. Donc je dois la tromper avec d'autres. Et celle avec qui je dois la tromper, c'est pour faire des trucs concernant le sexe, mais avec elle. Ouais, c'est fidèle.
C'est là un échantillon illustratif des mobiles et conséquences de la ruée des jeunes lycéens béninois vers le sexe. Un comportement déviant dont les causes proviennent des habitudes importées via les médias. Selon Martin Luther Adéromont, enseignant de sciences de vie et de la terre dans l'un des collèges de Cotonou.
Aujourd'hui, les élèves vont très rapidement au sexe. Et un facteur favorisant cet état de choses, c'est que avec l'Internet, avec la télévision, les films pornographiques, les journaux, certains sont tentés d'expérimenter cela. Je crois qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation sexuelle. Il est vrai que dans ma matière en SVT, on profite des situations d'apprentissage pour leur donner des conseils, mais je crois que ce n'est pas suffisant.
L'éducation sexuelle est donc la seule solution qui pourra éviter aux jeunes des conséquences désastreuses pour toute leur vie. Mais il faudra s'y prendre très tôt, selon Zénaïde Adjentossa, assistante sociale.
L'éducation sexuelle est nécessaire pour tout enfant. Les gens pensent qu'il faut être adulte avant d'être éduqué sexuellement. Non, pour tout enfant, déjà à l'âge de 6 ans, il faut commencer par éduquer l'enfant sexuellement. Parce que quand l'enfant atteint l'âge de 6 ans, sa curiosité est très poussée. Il commence par poser des questions, des petites caresses, des bisous. Quand l'enfant regarde la télé, regarde les grandes personnes, tout ce qu'on fait et qui touche la sexualité, l'enfant est intéressé. Alors, il ne faut pas cacher la vérité à l'enfant. On doit trouver les thèmes dans lesquels il faut expliquer ce que c'est que la sexualité. C'était à l'enfant, que l'enfant comprenne.
Ce vœu se réalisera difficilement au Bénin, car ici, les questions liées au sexe sont encore tabous. Et l'État béninois a commencé déjà par jouer sa partition, mais devra opérer des réformes pour des résultats plus probants. Zénaïde Adjentossa.
C'est déjà bon que l'État implique l'éducation sexuelle dans le programme scolaire, mais quand on va jusqu'en troisième d'abord, avant de connaître le cycle mensuel, tout ça, c'est trop tard. Puisque en cinquième, sixième, même au CM2, les filles sont déjà filles. Pourquoi ne pas commencer l'éducation sexuelle au CM1 et au CM2? Il faut commencer tôt. Parce que ce n'est pas quand l'enfant entend parler de sexe tôt qu'elle passe au sexe tôt.
Grossesse non désirée, déscolarisation des filles, contamination des maladies sexuellement transmissibles sont autant de périls que peut éviter l'éducation sexuelle chez les jeunes. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Et voilà, Celle Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la technique, Miraël Dubinski et Sidrak Franklin. Au micro, Claire Morin-Gibour. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Celle Plus. Nous nous quittons en musique avec le rappeur camerounais Daryl et son titre Jackpot. Très bonne soirée et très bonne nuit à tous.
Cette fois je ne viens pas rapper, je viens juste m'amuser. Drôle parce que quand je rappe, je suis en train de m'amuser. Avec facilité des phases, je fais fuser, je te l'ai dit. Prends un JET si tu espères me retrouver. J'ai cette vibe de lion, plus cette rage de guerrier. Je fonce tête baissée, si Astro Dari les béliers. Comme Yagami, je les cogne tous, même les piliers. Je frappe où ça fait mal, tu as crié, donc tu ne peux nier. Tu veux me faire la peau, prends un ticket, FK, tu connais la clique. Je fais mon trou, je veux percer, donc à tes trous et je m'applique. Jamais on ne baisse la tête, même on tord devant un flic. L'argent sourit pas, donc stop les blagues quand il s'agit de flics. Je suis dans le futur, je ne sors que des mises à jour. J'ai ce flow qui met d'accord les rockeurs et les sourds. Je me veux à l'heure, jamais à la bourre. Les gros ta meuf m'appelle MC Hammer quand je lui fais l'amour. C'est un boy Daryl, une fois de plus. 237, une fois de plus. Okay. On remet ça, man, comme Barack Obama. Dites à Mary Jake, Daryl et Al, un autre drama. Musique de qualité pour mes street DJ drama. Négro ralenti, c'est sur les fonds de teint. Yade rama. Unique, je le suis, dans l'alphabet, il n'y a qu'un D. Tu peux être ton café au lait ou bien ta tasse de thé. Ta pointouillette en hiver, ta crème solaire en été. Je suis tout terrain, un peu comme le RTT. Ta mère est fière, je fais ce que je fais pour mes soeurs. Mes frères, je sais d'où je viens, où je vais, négro, j'ai mes repères. Nouvelle donne, nouvelle ère, on vient tout changer. Les ordres, les déranger, clap dans tes mains si au concept adhère. C'est un boy Daryl, une fois de plus. Si. 237, une fois de plus.
nouvelle track, nouvelle Kamek. Je roule de 137 à l'heure, t'avances à la ramec. Chaque track égale un coup de lime sur ma lame. Yep. Tu sonnes erroné, s'il te plaît, change de gamme, mec. Je fais des morts, mec, et ceci sans effort, mec. J'enfile mon jersey, ta meuf descend mon short, mec. J'enfile mon jersey, ta meuf descend mon short, mec. J'enfile mon jersey, ta meuf descend mon short, mec. C'est du made in camer, négro, y'a pas plus amer. Aucune trace de lactose, y'a pas plus camer. C'est la grosse bringue, demande à Eric Bissot. Ce rostou me fait la passe et je conclue en retourné ciseaux. Idaril Movit, je marque avec la manière. Green, red, yellow, les couleurs de la bannière. Et révolue le temps des chaînes et des lanières. Que les hyènes se cachent, les lions sont sortis de la tanière.
Putain de freestyle. Freestyle. Yeah. Yeah. Sul, t'as enfoncé les radios. Yep. 237 une fois plus.